France Culture.
C'est maintenant le journal de la rédaction. Julie Paco, bonjour.
Bonjour Marina, bonjour à tous. Un mort et au moins une trentaine de blessés dans des frappes russes en Ukraine. Kiev parle d'une nuit de terreur au moment même où les délégations ukrainiennes, russes et américaines négocient à Abu Dhabi le règlement de 4 années de conflit. Jusqu'à 35 cm de neige et des températures pouvant descendre à moins 50. Les États-Unis se préparent à une tempête hivernale d'une rare intensité. L'état d'urgence est déclenché dans une quinzaine d'États. Nous reviendrons sur le budget et sa partie dépenses adoptée hier par 49-3 à l'Assemblée. Un budget 2026 dans lequel l'effort demandé aux collectivités est deux fois moins élevé que prévu, mais la facture reste douloureuse. Les collectivités territoriales et les maires qui peuvent sensibiliser leurs administrés au danger des écrans, c'est le message que veulent faire passer aujourd'hui les Assises de l'attention qui se tiennent à Paris. Florent Souillot, son organisateur, est l'invité de ce journal. Kiev dénonce le cynisme de Vladimir Poutine. En plein pourparlers aux Émirats arabes unis sur la fin de la guerre en Ukraine, à Abu Dhabi entre Russes et Ukrainiens sous l'égide des États-Unis pour avancer sur un plan de paix. Des frappes russes cette nuit ont fait au moins un mort en Ukraine et près d'une trentaine de blessés. Bonjour Virginie Pironon.
Bonjour Julie.
Des frappes russes qui ont une nouvelle fois ciblé les infrastructures énergétiques alors que l'Ukraine fait face à un froid intense ces dernières semaines et que ses habitants sont confrontés à des coupures d'électricité et de chauffage, ce qui a provoqué un état d'urgence.
Et celui qui parle de cynisme aujourd'hui, c'est le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andrei Sybiha, qui dénonce de la part de Vladimir Poutine une nouvelle frappe, je cite, « brutale, massive », au moment même où les délégations se rencontrent à Abu Dhabi. Sur le réseau X, il interroge « effort de paix, rencontre trilatérale, diplomatie ». Non, écrit-il, pour les Ukrainiens, c'était une nouvelle nuit de terreur russe. Une maternité, notamment, a été visée dans la ville de Kharkiv. Ce qui interroge sur la réelle volonté de Moscou de parvenir à un accord de paix, c'est que la question de la sécurité énergétique est précisément au menu des négociations aux Émirats arabes unis. Selon le Financial Times, l'Ukraine et les États-Unis doivent proposer que la Russie cesse ses attaques contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes. En échange, Kiev s'engagerait à ne plus viser les raffineries de pétrole russe et les pétroliers.
Et Virginie, les négociations justement reprennent aujourd'hui. Que sait-on des avancées, s'il y en a ?
Hier soir, un responsable de la Maison-Blanche a déclaré au journal ukrainien en ligne Kyiv Independent que les discussions d'hier ont été productives, sans plus de détails. Ce qui coince évidemment toujours, c'est la question de la région du Donbass, en grande partie désormais occupée par la Russie. Moscou demande toujours à Kiev de retirer ses troupes. Dans son discours à la Nation hier soir, Volodymyr Zelensky a affirmé recevoir des briefings heure par heure. Selon lui, il est encore trop tôt pour tirer des conclusions. Mais dès hier, le Kremlin a donné le ton en disant s'attendre, je cite, à des négociations difficiles.
Virginie Pironon, rédaction internationale de Radio France, et en pleine négociation donc à Abu Dhabi sous l'égide des États-Unis, eh bien le Pentagone a dévoilé hier soir la nouvelle stratégie de défense américaine. Un document qui préconise notamment un soutien plus limité aux alliés européens pour donner la priorité à la sécurité intérieure. Nos alliés et partenaires assumeront la responsabilité de leur propre défense et le Pentagone rétablira la domination militaire des États-Unis au sein du continent américain. Est-il écrit, marquant donc noir sur blanc, une rupture considérable avec les précédentes stratégies de défense nationale des États-Unis. Avis de tempête toujours aux États-Unis, tempête non pas politique mais bien hivernale, où les 10 prochains jours d'hiver devraient être les pires depuis 40 ans, d'après les services météorologiques nationaux. Du Texas à New York, plus de 200 millions d'Américains du centre et de l'est du pays ont commencé à affronter la nuit dernière un épisode de neige et de froid très intense. Plus de 7000 vols prévus ce week-end ont d'ores et déjà été annulés. Et Gwendal Lavina, les autorités appellent à la plus grande prudence.
Ces derniers jours, des files d'attente inhabituelles se forment devant les supermarchés. Sur les réseaux sociaux, des images montrent aussi des rayons dévalisés à Washington, D.C. et Nashville. Les habitants d'une trentaine d'États sont concernés par cette tempête hivernale majeure, selon les services météorologiques américains. Jusqu'à 35 cm de neige et des températures pouvant descendre jusqu'à moins 50 degrés sont attendues par endroit. L'état d'urgence a donc été déclenché par une quinzaine de gouverneurs, dont celui de Caroline du Nord, Josh Tien.
C'est une tempête sérieuse, nous la prenons au sérieux et vous devriez aussi. Nous recommandons de garder vos appareils chargés, d'avoir une lampe torche, une radio et d'anticiper ce dont vous avez besoin pour rester au chaud et nourri sans électricité.
En février 2021, au Texas, une panne prolongée sur le réseau électrique avait laissé des millions de foyers sans courant et fait plus de 200 morts. L'accumulation de neige et de couches de verglas pourrait paralyser la circulation pendant plusieurs jours, selon des prévisionnistes météo. Les autorités locales et fédérales appellent donc les habitants à ne surtout pas tenter de se déplacer.
Wanda Lavina, correspondante France Culture à New York. Danone élargit son rappel de lait infantile à d'autres pays, dont la France. Le géant agroalimentaire rappelle de l'eau dans l'Hexagone par mesure de précaution, indique le groupe. Bonjour Mathilde Deparois.
Bonjour Julie.
Après les rappels du Suisse Nestlé, puis du Français Lactalis mercredi, Danone dit appliquer un principe de précaution maximale.
Oui, Danone retire deux lots spécifiques pour les nourrissons de 0 à 6 mois. Le premier, c'est un pot de 830 grammes de la marque Gallia Calisma Relais Premier Âge, avec la date du 13 octobre 2026. Et le second, une boîte de 400 grammes de la marque Blédilet, qui mentionne le 29 octobre 2026. Danone met en avant une mesure de précaution après ce scandale sanitaire qui éclabousse l'industrie du lait infantile. Plusieurs lots des marques Nestlé et Lactalis ont déjà été rappelés ces dernières semaines dans le monde et en France. Hier, la ministre de la Santé, Stéphanie Rist, a assuré que tous les lots de lait infantile incriminés ont désormais été retirés du marché. Au début du mois, deux enquêtes pénales ont été ouvertes à Bordeaux et Angers après le décès de deux nourrissons. Ils avaient tous les deux consommé du lait Gigoz, potentiellement contaminé par une bactérie, la céréulide. Elle provoque des vomissements et des diarrhées chez les bébés et peut entraîner des complications graves. Mais pour l'heure, le lien de causalité n'est pas établi entre la consommation de ce lait potentiellement contaminé et les décès des deux nourrissons. Les analyses sont toujours en cours.
Mathilde Deparois. Le budget des collectivités locales, souvenez-vous, c'est l'un des sujets qui a précipité la fin des débats budgétaires à l'Assemblée nationale après une semaine dernière parfaitement chaotique, au cours de laquelle les députés ont successivement supprimé la dotation de l'État aux collectivités en commission, puis un amendement de LFI l'a rétabli et indexé sur l'inflation avant de l'amputer de quelques 5 milliards d'euros. Le gouvernement a donc décidé de mettre fin au débat. Et Annabelle Grelier, dans la copie finale de la partie dépenses adoptée hier par 49.3, eh bien l'effort budgétaire réclamé aux collectivités pour 2025 est moins élevé que prévu.
Le Premier ministre les avait prévenus. Les collectivités locales devront bien participer à l'effort collectif, mais dans des proportions acceptables, avait-il précisé. Calqué sur la copie du Sénat, cet effort sera donc de près de 2 milliards d'euros contre 4,6 milliards annoncés en octobre et même 5,3 milliards en juillet. Premier soulagement pour les collectivités, la DGF, la dotation globale de fonctionnement, principale dotation de l'État aux collectivités, reste inchangée à 27,4 milliards d'euros, mais elle ne sera pas indexée sur l'inflation. Ce sont les régions qui sont les plus touchées et les moins satisfaites de ces annonces. Elles regrettent l'effort important qui leur est demandé via le DILICO, un dispositif très critiqué de mise en réserve obligatoire d'une partie des recettes fiscales des collectivités instaurées dans le dernier budget, dispositif censé être temporaire qui là encore perdure. Le DILICO a néanmoins été ramené de 2 milliards à 740 millions d'euros, bénéficiant aux communes qui cette année en seront complètement exemptées. Mais la colère pour les régions porte plus précisément sur la baisse de la DCRTP, une dotation annuelle visant à compenser une réforme de la taxe professionnelle qui va frapper 6 régions. Les Hauts-de-France, l'Occitanie, la Normandie, la Nouvelle-Aquitaine, la Bourgogne-Franche-Comté et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Sur le front de la transition écologique, le montant du fonds vert a été rehaussé de 200 millions d'euros destinés à financer les projets des collectivités tels que la rénovation énergétique des bâtiments ou des pistes cyclables. Cette enveloppe avait été presque divisée par deux dans le budget précédent.
Annabelle Grelier pour France Culture. Des collectivités, des villes notamment, qui peuvent jouer un rôle de premier plan contre la surexposition aux écrans. C'est la thématique cette année des Assises de l'attention qui se tiennent aujourd'hui à Paris et dont vous êtes l'organisateur. Florence Houillot, bonjour.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous sur France Culture. Vous interpellez donc les candidats aux élections municipales de mars prochain sur le rôle que peuvent jouer les maires, les communes dans la prévention de la surexposition aux écrans.
Exactement. On a, avec notre collectif d'associations, rédigé notamment une charte qui s'appelle « Plus d'humains, moins d'écrans » et qu'on met à disposition de tous les candidats aux prochaines élections municipales pour agir concrètement au niveau de leur mairie et de leurs administrés. C'est une charte qui est déjà signée par plusieurs candidats dans plusieurs villes. Et par ailleurs, les mesures qu'on pousse ont déjà été parfois mises en place dans certaines grandes villes en France. Donc c'est un mouvement qui a déjà commencé, mais qu'on essaye d'amplifier à l'occasion des prochaines municipales.
Alors, quels candidats aux municipales ont d'ores et déjà répondu à cette charte ?
Vous en avez à peu près une quinzaine aujourd'hui, à Clichy, Aubervilliers, Maisons-Laffitte, Poitiers, Troyes, Célestat. Voilà. Vous avez aussi des villes qui se sont déjà engagées et qui n'attendent pas pour le faire et qui vont le faire à Marseille notamment, par de l'affichage ou de la prévention, un soutien à la prévention indépendante sur ces questions, à Villeurbanne, ou un droit à la déconnexion administrative. Vous savez, vous laissez le choix à vos administrés de ne pas passer uniquement par le numérique pour toutes les démarches administratives, ça existe. Et de la même façon à Bordeaux aussi, qui soutient nos actions de prévention.
Alors vous l'avez plus ou moins évoqué, mais très concrètement, qu'est-ce que les maires peuvent faire à échelon local ?
En fait, ils peuvent faire beaucoup, parfois beaucoup plus que ce qu'on peut faire à des échelons plus élevés, nationaux ou même européens. Ils peuvent déjà prévenir la population des dangers du numérique en affichant des messages de prévention. Ils peuvent valoriser les alternatives vertueuses, la lecture, les événements culturels. Ils peuvent former les agents de la ville aux dangers du numérique, parce que vous savez, les villes aujourd'hui sont directement en contact avec notamment la petite enfance, où il y a de vrais enjeux de santé mentale et publique, on va dire, des enfants. Ils peuvent réguler les équipements numériques de la ville. Vous savez, dans la ville, vous avez des écrans publicitaires, vous avez des crèches publiques, des écoles maternelles, des écoles primaires. Ça, c'est des choses sur lesquelles ils ont leur mot à dire. Donc, ils peuvent aussi appliquer un principe de précaution à cet endroit. Et ils peuvent aussi permettre cette non-connexion administrative dont je parlais.
Alors, c'est la quatrième édition de ces Assises de l'attention. Comment est né cet événement ?
En fait, il est né d'associations, de terrain indépendantes qui se sont retrouvées face à un constat commun des effets néfastes du numérique dans lequel on vit, du smartphone, des réseaux sociaux, de l'intelligence artificielle. Donc ça fait déjà une dizaine d'années, on va dire, que ces associations existent. Et nous, on s'est coalisés, on a décidé de se regrouper autour de principes, d'avoir un discours lucide, d'avoir des propositions politiques aussi, et de partager nos solutions. Et donc, on a créé ce collectif Attention. Si vous êtes intéressé, vous trouverez tout sur Internet en tapant collectif Attention. Et on organise comme ça des journées de débat tous les deux ans. Là, c'est la quatrième édition à Paris, pour partager des solutions, partager des constats, et alerter sur des propositions politiques.
Alors, au-delà des initiatives locales, quelles mesures plus globales vous préconisez ?
Alors, on a une quinzaine de mesures, parmi lesquelles les plus prioritaires, c'est de définir un âge légal d'accès au smartphone à au moins 15 ans. Ce sera peut-être plus tard, mais aujourd'hui, on estime qu'il ne faut pas, et il faut avoir un discours clair là-dessus. Le smartphone est un outil qui ne doit pas être mis dans les mains des adolescents, il faut les protéger. On demande aussi l'interdiction des écrans dans les maternelles et par ailleurs un financement et un soutien durable en termes de politique publique pour la prévention indépendante sur la question du numérique.
Alors justement, il y a eu plusieurs annonces politiques qui vont dans ce sens ces derniers mois. Le gouvernement souhaite interdire les réseaux sociaux au moins de 15 ans dès la rentrée prochaine. Une proposition de loi doit d'ailleurs être discutée lundi à l'Assemblée en ce sens. L'exécutif veut aussi interdire les smartphones au lycée. Le chef de l'État, héros de la Startup Nation en 2017, est désormais très mobilisé sur le sujet. Est-ce que vous y voyez enfin une prise de conscience des dangers du numérique ou ces initiatives ne vont pas assez loin ?
C'est une prise de conscience. On soutient ces initiatives. On estime qu'on est allé trop loin, qu'il est temps de réagir. De nombreux pays le font. Là, rien qu'aujourd'hui, vous avez des gens des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Espagne, où ces mesures sont en train d'être mises en place, voire déjà mises en place. Donc il faut le faire, mais il faut accompagner ces mesures évidemment de moyens, de pédagogie. Et par ailleurs, ce ne sont que des premières mesures. On sait bien qu'une loi ne va pas résoudre tout. Ça veut dire qu'il faut agir à tous les niveaux, quoi. Donc, on parlait de l'échelon local. Il y a cet échelon national avec la loi. Il est indispensable, mais il sera pas suffisant. On le sait déjà.
Dernière question, Florence Rieu. Vous alertez aussi sur les stratégies d'influence de l'industrie numérique à laquelle vous consacrez d'ailleurs une table ronde cet après-midi. Comment ces entreprises s'y prennent-elles pour empêcher les initiatives de régulation ?
Alors, un peu comme dans d'autres secteurs et d'autres industries, le tabac, l'alcool, les pesticides. On a aujourd'hui des liens d'intérêt qui existent entre des laboratoires de recherche et des entreprises privées qui assoient leur discours et sur des projets qu'elles financent. Ce qui fait qu'on a une forme d'instrumentalisation de la recherche sur ces sujets qui, du coup, vient nourrir un discours contre la régulation visant à créer du doute dans les esprits et à nous faire croire que, en fait, c'est très compliqué, qu'on ne sait pas trop et que la science n'a pas tranché. La réalité, c'est que la science a tranché depuis longtemps et que les écrans posent des problèmes de santé physique et mentale, en particulier aux enfants.
C'est entendu. Merci beaucoup Florence Houillot, organisateur des Assises de l'Attention qui se tiennent à Paris aujourd'hui à la Bellevilloise. Et merci également à Aloïse Guérin pour la préparation de cet entretien. La météo de votre après-midi avec de nouvelles pluies attendues de l'Occitanie jusqu'en basse vallée du Rhône et des précipitations qui se poursuivent de l'Aquitaine au Cotentin. Trois départements bretons sont en vigilance orange pour pluie, inondation et crue. Le ciel restera plus lumineux ailleurs, même si la grisaille résiste sur le Grand Est. Les températures maximales atteignent 6 à 9 degrés à l'est, 8 à 11 degrés à l'ouest et jusqu'à 15 en Corse. C'est la fin de ce journal préparé avec Brice Garcia et Jean-Guilain Meige à la technique.